L'autre écoutait M. Lefaucheux dissertant sur les gloires du barreau. Madame Arnoux était seule près de la croisée. Frédéric l'aborda. Ils causèrent de ce que l'on disait. Elle admirait les orateurs. Lui, il préférait la gloire des écrivains. « Mais on devait sentir, reprit-elle, une plus forte jouissance à remuer les foules directement, soi-même, à voir que l'on fait passer dans leur âme tous les sentiments de la sienne. » Ce triomphe ne tentait guère Frédéric, qui n'avait point d'ambition. « Ah, pourquoi ? » dit-elle. « Il faut en avoir un peu. » Ils étaient l'un près de l'autre, debout, dans l'embrasure de la croisée. La nuit, devant eux, s'étendait comme un immense voile sombre piqué d'argent. C'était la première fois qu'il ne parlait pas de choses insignifiantes. Il vint même à savoir ses antipathies et ses goûts. Certains parfums lui faisaient mal. Les livres d'histoire l'intéressaient, elle croyait aux songes. Il entama le chapitre des aventures sentimentales. Elle plaignait les désastres de la passion, mais était révoltée par les turpitudes hypocrites. Et cette droiture d'esprit se rapportait si bien à la beauté régulière de son visage qu'elle semblait en dépendre. Elle souriait quelquefois, arrêtant sur lui ses yeux une minute. Alors, il sentait ses regards pénétrer son âme, comme ces grands rayons de soleil qui descendent jusqu'au fond de l'eau. Il l'aimait sans arrière-pensée, sans espoir de retour absolument, et dans ses muets transports, pareils à des élans de reconnaissance, il aurait voulu couvrir son front d'une pluie de baisers. Cependant, un souffle intérieur l'enlevait comme hors de lui. C'était une envie de se sacrifier, un besoin de dévouement immédiat et d'autant plus fort qu'il ne pouvait l'assouvir. Il ne partit pas avec les autres, Hussonnet non plus. Il devait s'en retourner dans la voiture, et l'Américaine attendait au bas du perron quand Arnoux descendit dans le jardin pour cueillir des roses. Puis, le bouquet étant lié avec un fil, comme les tiges dépassaient inégalement, il fouilla dans sa poche, pleine de papier, en prit un au hasard, les enveloppa, consolida son œuvre avec une forte épingle et l'offrit à sa femme avec une certaine émotion. « Tiens, ma chérie, excuse-moi de t'avoir oublié. » Mais elle poussa un petit cri. L'épingle, sautement mise, l'avait blessée, et elle remonta dans sa chambre. On l'attendit près d'un quart d'heure. Enfin elle reparut, enleva Marthe, se jeta dans la voiture. « Et ton bouquet ?» dit Arnaud. « Non, non, ce n'est pas la peine. » Frédéric courait pour l'aller prendre. Elle lui cria « Je n'en veux pas !» Mais il l'apporta bientôt, disant qu'il venait de le remettre dans l'enveloppe, car il avait trouvé les fleurs à terre. Elle les enfonça dans le tablier de cuir contre le siège et l'on partit. Frédéric, assis près d'elle, remarqua qu'elle tremblait horriblement. Puis, quand on eut passé le pont, comme Arnaud tournait à gauche, « Mais non, tu te trompes, par là, à droite !» Elle semblait irritée, tout la gênait. Enfin, Marthe ayant fermé les yeux, elle tira le bouquet et le lança par la portière, puis saisit au bras Frédéric en lui faisant signe avec l'autre main de n'en jamais parler. Ensuite, elle appliqua son mouchoir contre ses lèvres et ne bougea plus. Les deux autres, sur le siège, causaient d'imprimerie et abonnés. Arnoux, qui conduisait sans attention, se perdit au milieu du bois de Boulogne. Alors on s'enfonça dans de petits chemins. Le cheval marchait au pas. Les branches des arbres frôlaient la capote. Frédéric n'apercevait de Madame Arnoux que ses deux yeux dans l'ombre. Marthe s'était allongée sur elle et il lui soutenait la tête. « Elle vous fatigue ?» dit sa mère. Il répondit « Non, non !» De lents tourbillons de poussière se levaient. On traversait Auteuil. Toutes les maisons étaient closes. Un réverbère, çà et là, éclairait l'angle d'un mur, puis on rentrait dans les ténèbres. Une fois, il s'aperçut qu'elle pleurait. Était-ce un remords, un désir, quoi donc ? Ce chagrin qu'il ne savait pas l'intéressait comme une chose personnelle. Maintenant, il y avait entre eux un lien nouveau, une espèce de complicité. Et il lui dit, de la voix la plus caressante qu'il put, « Vous souffrez ?»« Oui, un peu, » reprit-elle. La voiture roulait, et les chèvrefeuilles et les seringas débordaient les clôtures des jardins, envoyaient dans la nuit des bouffées d'odeurs amollissantes. Les plis nombreux de sa robe couvraient ses pieds. Il lui semblait communiquer avec toute sa personne par ce corps d'enfant étendu entre eux. Il se pencha vers la petite fille et écartant ses jolis cheveux bruns, la baisa au front, doucement. « Vous êtes bon, » dit Madame Arnoux. « Pourquoi ?»« Parce que vous aimez les enfants. »« Pas tous. » Il n'ajouta rien, mais il étendit la main gauche de son côté et la laissa toute grande ouverte, s'imaginant qu'elle allait faire comme lui, peut-être, et qu'il rencontrerait la sienne. Puis il eut honte et la retira. On arriva bientôt sur le pavé. La voiture allait plus vite. Les becs de gaz se multiplièrent, c'était Paris. Hussonnet, devant le garde-meuble, sauta du siège. Frédéric attendit pour descendre que l'on fût arrivé dans la cour. Puis il s'embusqua au coin de la rue de Choiseul et aperçut Arnoux qui remontait lentement vers les boulevards. Dès le lendemain, il se mit à travailler de toutes ses forces. Il se voyait dans une cour d'assises, par un soir d'hiver à la fin des plaidoiries, quand les jurés sont pâles et que la foule haletante fait craquer les cloisons du prétoire, parlant depuis 4 heures déjà, résumant toutes ses preuves, en découvrant de nouvelles, et sentant à chaque phrase, à chaque mot, à chaque geste, le couperet de la guillotine suspendu derrière lui se relever. Puis, à la tribune de la chambre, orateur qui porte sur ses lèvres le salut de tout un peuple, noyant ses adversaires sous ses prosopopées, les écrasant d'une riposte, avec des foudres et des intonations musicales dans la voix, ironique, pathétique, emportée, sublime. Elle serait là, quelque part, au milieu des autres, cachant sous son voile ses pleurs d'enthousiasme. Il se retrouverait ensuite, et les découragements, les calomnies et les injures ne l'atteindraient pas si elle disait « Ah, cela est beau !» en lui passant sur le front ses mains légères. Ces images fulguraient comme des phares à l'horizon de sa vie. Son esprit, excité, devint plus leste et plus fort. Jusqu'au mois d'août, il s'enferma et fut reçu à son dernier examen. Des lauriers qui avaient eu tant de mal à lui seriner encore une fois le deuxième à la fin de décembre et le troisième en février, s'étonnaient de son ardeur. Alors les vieux espoirs revinrent. Dans 10 ans, il fallait que Frédéric fût député, dans 15, ministre, pourquoi pas. Avec son patrimoine qu'il allait toucher bientôt, il pouvait d'abord fonder un journal. Ce serait le début, ensuite on verrait. Quant à lui, il ambitionnait toujours une chaire à l'école de droit, et il soutint sa thèse pour le doctorat d'une façon si remarquable qu'elle lui valut les compliments des professeurs. Frédéric passa la sienne 3 jours après. Avant de partir en vacances, il eut l'idée d'un pique-nique pour clore les réunions du samedi.